CFM, en Tarn-et-Garonne. Le MAG.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce MAG dans lequel on va vous inviter à une conférence au programme de ce samedi du côté de Caussade et grâce à l'Université Populaire de Caussade, une conférence sur la culture jeune et la quête initiatique. Une conférence proposée par Julien Cueil, il est professeur de lycée, chargé de cours à l'Université Montpellier 3 et psychanalyste. Julien Cueil, on va le recevoir dans ce MAG juste après la chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques de la communauté de communes Castillon-Cange de l'Aveyron, puisque oui, on est mardi, on retrouve Victor Le Guenec.
Bonjour et bienvenue sur les coups de cœur des médiathèques du QRGA. Aujourd'hui, on parle actrice, hallucination, rencontre et tabouret. Et tout d'abord, on cause chimère du modernisme avec le congrès d'Harry Folman, réalisateur qui nous avait déjà courtoisement malmené dans Valse avec Bachir. Et là, je vous propose un film pour le moins étrange, voire hautement improbable, qui nous promène dans une vision futuriste d'un monde en demande de toujours plus de spectacles. Dans l'idéal, toujours le même, mais en plus puissant. Un principe qu'Harry Folman prend à revers pour nous proposer un film complètement délirant. On suit l'actrice Robin Wright, vous savez, l'héroïne de Princess Bride, qui joue ici son propre rôle et à qui l'industrie du cinéma propose de numériser son apparence afin d'utiliser son image pour faire de nouveaux films. En bref, de conserver une représentation d'elle pleinement exploitable, entendez, toujours jeune, c'est-à-dire commercialisable, car oui, l'un des sujets du film est le traitement des actrices à Hollywood. Et ainsi commence une histoire rocambolesque proposée dans un bordel artistique relativement inédit. Ça part dans tous les sens, au scénario et dans la forme même du film. La deuxième moitié passe carrément en animation dans un monde sous perfusion de drogues hallucinogènes où chacun incarne l'image qu'il veut donner de lui. C'est joyeusement foutraque, certes, parfois un peu trop, mais de par tous les chemins que prend le film, chacun y trouvera son bonheur. Il faut un certain génie démentiel pour concevoir ce genre d'ovni et j'imagine une radieuse liberté de création. La réalisation est époustouflante et, mes amis, la lumière. Il y a un chef opérateur d'une compétence rare qui éclaire avec puissance tout le savoir-faire talentueux de Robin Wright. Un film de science-fiction, certes, mais aujourd'hui, à l'heure de la numérisation permanente du spectacle et du rajeunissement numérique des acteurs, c'est tellement actuel. Si ça peut en laisser certains perplexes, préparez-vous tout de même à une tornade d'émotions parfois contradictoires. Bref, un cirque cinématographique qui vous brise les neurones. Vous êtes prévenus. Mais tout de suite, pour rester dans l'improbable, on passe du fantasme de la modernité au merveilleux enfantin, avec une œuvre entre livre et BD de Sibylline Capucine et Jérôme Davio, Le trop grand vide d'Alphonse Tabouret, dans lequel un tout petit être né de la dernière pluie se voit confronté à l'existence, seul, face à un monde dont il ignore tout. Il va devoir se construire seul et apprendre. Apprendre la vie et tous ses aléas, ses inconstances. L'abandon, la solitude, les rencontres, l'amour, la jalousie, la frustration, l'amitié, bref, faire face à l'incompréhensible et l'inappréhensible d'un monde candidement adulte. Avec des personnages toujours plus informes et grotesques les uns que les autres, on arrive à une belle vision de la conception de l'autre. C'est pour le moins mignon, joli et rafraîchissant. Non pas désuet, mais certainement naïf, du moins en apparence. C'est bien plus profond qu'il n'y paraît et chaque page nous offre par des constructions graphiques mouvantes un regard nouveau sur le labyrinthe des possibles qu'est la vie. Les dessins sont simples et on ne s'y perd jamais malgré un découpage faussement aléatoire qui nous mène par le bout du nez jusqu'au bout de l'histoire. Le livre d'une vie, celle d'Alphonse Tabouret, une œuvre entre deux âges dans lequel les trois auteurs jouent espièglement avec leurs personnages jouets comme des enfants s'imaginant grandir. C'est poétique, joyeux, triste et drôle, le tout en même temps. Bref, un vide très bien rempli par la vie. Le trop grand vide d'Alphonse Tabouret et le congrès d'Harry Folman sont à retrouver dans le réseau des médiathèques du QRGA. Bonne lecture, bon visionnage et à bientôt.
Merci Victor. Toutes les chroniques des coups de cœur du réseau des médiathèques sont à retrouver bien sûr en podcast sur le site cfmradio.fr.
CFM Caylus. Le MAG.
Et ce MAG à propos d'une conférence qui nous est proposée par l'Université Populaire de Caussade, qui a une conférence par mois à peu près sur des sujets extrêmement divers. Cette semaine, une conférence à propos de la culture jeune et de la quête initiatique, rien que ça. Ce sera donc ce samedi à 16h30 au Récollet. Comme d'habitude, c'est gratuit et c'est une conférence qui sera animée par Julien Cueil. Bonjour Julien.
Bonjour.
Vous êtes professeur de lycée, chargé de cours à l'Université Montpellier 3 et psychanalyste. Alors la culture jeune, déjà, est-ce qu'on peut commencer par définir le mot culture ?
Oui, alors bon, vous savez qu'il y a toute une polémique là-dessus, parce que souvent on a tendance à critiquer un petit peu la culture des jeunes, justement, à considérer que ça serait une sous-culture ou une paralittérature, comme on dit aussi parfois. Bon, souvent aussi on la connaît mal, parce que bon, moi-même je dois dire que je suis d'une toute autre génération et j'avais pas du tout de familiarité au départ avec les mangas, par exemple, ou avec ce genre de d'objets culturels, on va dire, hein, qui sont souvent commerciaux. Et ça peut être un frein parce que, oui, on a parfois affaire à des films, à des productions à grand spectacle qui coûtent beaucoup d'argent et dont on a parfois l'impression qu'elles sont faites justement pour favoriser la consommation et pas du tout ce que nous, on a envie d'appeler la culture. Voilà. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de rentrer dedans et de me mettre un peu à leur place pour voir comment ils vivent les choses et comment ils se l'approprient surtout. Parce que je pense que c'est pas du tout quelque chose de passif, comme on dit parfois, c'est-à-dire qu'ils seraient victimes d'un marketing. C'est vrai aussi, dans une certaine mesure, comme tout le monde, comme les adultes aussi. Mais par contre, ils ont une capacité, ces jeunes, ils et elles, à se réapproprier et à utiliser en fait les objets de la culture commerciale hein, pour en faire quelque chose de personnel.
Pour se raconter des histoires, vous êtes donc mis à regarder des mangas, aux jeux vidéo et à regarder Netflix pour une enquête.
Et voilà, je me suis dit que je pouvais pas passer à côté parce que d'abord je travaille avec eux, c'est mon métier depuis 30 ans, je suis au quotidien avec ces adolescents, bon, qui sont plutôt des grands adolescents, hein, si on peut dire, ils ont plutôt 16, 17, 18 ans. Mais je pouvais pas continuer à travailler avec ces jeunes sans savoir de quoi ils se nourrissent et qu'est-ce qui les intéresse en fait, parce que je me suis rendu compte que c'était réellement ce qui était pratiquement le plus important dans leur vie. Ça, je l'ai très bien perçu au moment du confinement, c'est-à-dire que à l'époque du premier confinement en 2020, où on était chacun chez soi, on s'est quand même appelé au téléphone pour avec certains, hein, pas tous, mais une partie, pour garder un peu le contact. Et là, je me suis rendu compte à quel point c'était vital pour eux d'avoir les mangas, les séries, les films, etc., les jeux. Pour nous aussi d'ailleurs, hein, finalement tout le monde a pu se rendre compte à quel point ces objets culturels étaient effectivement vitaux pour tenir le coup quand on est cloîtré chez soi et qu'on a on n'a pas la possibilité de toujours de voir du monde. Et ça a été l'occasion d'essayer de rentrer davantage dans leur culture, de m'immerger un petit peu dans ce qu'ils aiment, ce qui les fait vibrer, ce qui fait leur ce qui les nourrit, je dirais, hein, ce qui fait leur leur nourriture presque au sens spirituel. Je n'ai pas peur du... Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, justement.
C'est le titre de votre conférence, hein, « La culture jeune et la quête initiative ». Alors, OK, pour la culture jeune, le but, c'est de se raconter des histoires, mais c'est le cas pour tout le monde, toutes les générations et à travers tous les âges. Alors là, on retombe sur la quête initiatique.
Oui, la quête initiatique, le mot peut paraître fort aussi. Et surtout, c'est un mot qui est complètement oublié, c'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose dont on parle. Ça paraît être un peu déçu et passé de mode, voire obsolète, cette histoire de quête initiatique. Bon, on le trouve dans les contes de fées, on le trouve dans des récits pour enfants beaucoup plus jeunes. Et on se dit, eh bien finalement, on vit aujourd'hui à l'âge des nouvelles technologies, de choses beaucoup plus modernes, où il n'est plus forcément question de contes de fées avec des princesses, des chevaliers et des dragons. Et en fait, si. En fait, si, dès qu'on va un petit peu voir précisément de quoi il s'agit dans les mangas, les animés, ce qu'on appelle animés, c'est les dessins animés japonais, donc adapter les mangas, par exemple, c'est très très fort cette culture-là. Alors, c'est pas forcément sous la forme des contes de fées, bien sûr, c'est quand même des textes, enfin, des œuvres qui s'adressent à des jeunes un peu plus âgés. Donc, on n'est pas sur le même créneau. Mais il y a quelque chose de cet ordre. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement tout le temps une quête. Le mot de quête, d'ailleurs, est utilisé beaucoup dans le jeu vidéo, puisque c'est la base, hein, c'est ce qui fait fonctionner un jeu, c'est ce qu'on appelle une quête ou plusieurs quêtes. Et dans les mangas aussi, dans les scénarios, on trouve un scénario assez commun avec la trame permanente du héros ou de l'anti-héros parfois d'ailleurs, confronté à une série d'obstacles qu'il doit les surmonter et qui doit parvenir à la résolution des conflits. Ça a toujours existé, hein, depuis le Moyen-Âge, y compris dans le roman de chevalerie, le roman d'aventure, après le roman d'apprentissage aussi, 19e siècle. et on le retrouve aujourd'hui de façon un peu différente.
Alors justement, vous êtes penché sur le aujourd'hui, donc sur le Netflix, sur les jeux vidéo, sur les mangas, qui est une branche hein, de la culture jeune. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Et ça vous a permis de mieux communiquer avec les jeunes, de mieux se comprendre. Ça a apporté quelque chose?
Oui, certainement. Ça, c'est certain que ça apporte quelque chose. Moi, je suis professeur de philosophie en lycée, donc j'ai souvent l'occasion de débattre avec eux, de les laisser parler, de les écouter aussi. Et bien évidemment, avoir des objets en commun, c'est-à-dire des œuvres de fiction auxquelles on puisse se référer, c'est très utile parce que ça permet d'avoir des points communs. Maintenant, je dirais c'est quand même aussi leur précaré, c'est un petit peu leur jardin secret. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément envie non plus qu'on vienne fourrer le nez là-dedans. Et bon, je respecte aussi leur choix en ce sens-là, le fait qu'ils aient besoin d'une sphère un peu personnelle. Mais moi, ça m'a permis en tout cas de mieux les comprendre. Et en ce sens, ça m'est utile aussi pour mon travail, pour essayer d'avoir accès à leur univers intérieur pour justement les aider à grandir, parce que c'est quand même ça le but de l'éducation. C'est un peu ce dont rêve tout enseignant, c'est-à-dire aider des jeunes à se confronter petit à petit avec l'existence, avec ses difficultés, justement comme les héros qui, dans le cadre des fictions, doivent faire face à des obstacles. Simplement, on se rend compte que eux, ils mènent leur éducation de leur côté. C'est-à-dire que, indépendamment de tout ce qu'ils peuvent faire à l'école, et bon, bien sûr, ça occupe quand même un certain nombre d'heures et une place importante dans leur vie. Et j'ai envie de dire, la part des fictions est peut-être plus importante encore. Je pense qu'elle occupe un temps d'ailleurs équivalent, voire peut-être même supérieur, d'après ce qu'ils me disent, au temps qu'ils passent à l'école. Hein. Ils passent vraiment beaucoup, beaucoup de temps sur ces loisirs-là, que ce soit les jeux, les fictions, les séries. Et bah, ils font leur éducation, ils cherchent par eux-mêmes et ils ont besoin, je crois, de chercher par eux-mêmes. Ils ont besoin à un moment donné d'être confrontés via ces personnages, évidemment fictifs, à des situations difficiles pour pouvoir grandir et pour pouvoir se construire eux-mêmes. Je dirais que c'est une initiation parallèle à celle de l'école, parfois concurrente peut-être aussi.
Complémentaire. Pourquoi avons-nous besoin d'autant d'histoires, Julien Gueuil? Vous avez mené l'enquête hein, sur cette culture jeune, sur cette quête initiative, enquête qui sera délivrée lors d'une conférence samedi organisée par l'Université populaire de Caussade. On va poursuivre cette conversation, Julien Gueuil, donc professeur de lycée et chargé de cours à l'Université de Montpellier 3. Vous êtes aussi psychanalyste. On poursuit donc cette conversation dans ce mag après la musique. He loves to drive him crazy with his evil lips. Great guns are blazing. My deadly trip.
Demon fire is on you, desire.
Tarn-et-Garonne, le MAG.
De retour dans ce MAG, on est avec Julien Cueil, professeur de lycée, chargé de cours à l'université de Montpellier 3, psychanalyste invité par l'université populaire de Caussade pour une conférence autour de la culture jeune, la quête initiative. Ce sera ce samedi 12 novembre à 16h30 au Récollet. C'est comme d'habitude gratuit. Julien, on est en train de parler de cette quête d'histoire qu'ont les adolescents, les pré-ados, les pré-adultes, mais ça a toujours été le cas à travers toutes les générations. Alors les histoires changent, la culture jeune change, mais la quête initiatique reste là. C'est une question en fait.
Oui, certainement, la quête demeure. Alors il y a une continuité, on pourrait très bien analyser, j'essaie de le faire en abondant, mais ça serait compliqué de le faire de façon exhaustive. Mais depuis, en tout cas au moins le 19e siècle, on a la naissance du roman d'aventure, qui est quelque chose de très important dans l'imaginaire collectif, qui va structurer d'ailleurs la forme romanesque elle-même, et la façon dont ça évolue. Alors il me semble quand même qu'il y a quelque chose qui a changé. Et ça c'est très frappant et c'est très troublant dès qu'on se penche sur ces productions-là. C'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y a un allongement démesuré, je dirais presque délirant, de ce temps initiatique. C'est-à-dire que bon, dans beaucoup de fictions qu'on connaît, on a l'impression que le héros doit terrasser des monstres et puis progressivement devenir plus fort. Mais ce qui est nouveau peut-être notamment dans les mangas, c'est très très visible dans ce genre, à l'intérieur même des mangas qu'on appelle le neketsu, qui est précisément le genre initiatique, qui forme en fait la majorité des œuvres que lisent les jeunes. Et ce qu'on observe, c'est que ces épreuves se sont démultipliées et c'est presque infini. Alors les mangas c'est très long, souvent la plupart des œuvres c'est vraiment c'est des romans feuilletons, c'est des romans en fleuve, on pourrait dire, des romans graphiques. Il y en a qui sont toujours pas finis. Bon, le plus connu c'est One Piece, qui est toujours pas fini, ça fait 20 ans que l'auteur poursuit sa quête et ça semble réellement impossible d'arriver un jour à une fin. Mais en tout cas les épreuves sont de plus en plus de plus en plus dur, je crois, de plus en plus violente, au sens où c'est très cruel.
Si on se réfère aux contes de Grimm ou de Perrault, les contes qui se transmettaient oralement, c'était quand même un peu sanglant aussi.
Oui, alors ça a toujours été sanglant et je dirais c'est tout à fait normal et c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que précisément, il n'y a pas de croissance possible, de croissance psychique, il n'y a pas de possibilité de grandir si on n'est pas à un moment donné confronté à la dureté. C'est-à-dire que, précisément, on dit conte de fées comme si c'était du merveilleux, quelque chose de comme on dit, mais pas du tout. Mais là, ça l'est moins que jamais, c'est-à-dire que beaucoup plus encore que dans tous ces contes classiques ou ces formes de romans d'aventure, l'île au trésor, c'est un peu le schéma classique du roman d'aventure. Il y a des pirates, on risque de se faire tuer, c'est dur. On s'en sort assez rapidement. Mais là, ça s'étire, c'est interminable et c'est vraiment d'une cruauté assez inimaginable. Mais bon, on s'habitue aussi à ça. Je ne suis pas en train de dire là que c'est quelque chose qui rendrait les jeunes violents, par exemple. On a parfois ce discours à l'emporte-pièce en disant oui, ils jouent aux jeux vidéo, donc ils deviennent violents. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Bon, ça a été bien étudié par un certain nombre de gens. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une grande, grande dureté presque apocalyptique. On parle du post-apocalyptique, c'est un genre très à la mode depuis des années déjà. Et c'est vraiment ça. C'est d'ailleurs la phrase qui revient tout le temps. C'est tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Mmh. C'est une phrase d'ailleurs philosophique. Bon, je suis prof de philo, donc c'est une phrase de Nietzsche. Alors tous les jeunes connaissent cette phrase. Ils connaissent pas l'auteur, ils savent pas que c'est de Nietzsche en général, mais ils l'ont entendu parce que c'est dans l'air du temps en fait. Alors, ça a été repris par des rappeurs, par tout un tas de gens, mais c'est vraiment le schéma qui représente ce scénario de la quête interminable.
Alors, pardon, je vais finir.
Oui, alors mais il y a une deuxième chose, je me permets de finir, il y a une deuxième chose en fait qui a changé à mon avis, qui est là aussi très très frappante, c'est que on parle plus d'amour. On parle plus d'amour, en tout cas on en parle très peu, on en parle parfois un petit peu, mais de façon en réalité superficielle, parce que parfois certains auteurs se sentent obligés d'en mettre un petit peu, ça passe réellement au second plan et on voit que c'est pas du tout l'essentiel. On le voit même sur des œuvres comme Harry Potter par exemple, hein, j'en parle parce que Harry Potter, ça commence à avoir quelques années maintenant, hein. Mais tous les jeunes le connaissent encore parce que Harry Potter continue à défier les lois du succès commercial et à pulvériser les ventes. Hein. Et Harry Potter, c'est manifestement, on voit que l'intrigue amoureuse est tout à fait négligeable en réalité. Le problème de Harry, c'est de survivre. Mm-hmm. C'est de survivre et c'est de sauver sa peau. Et on retrouve ça partout. Sauver sa peau, faire face à des démons, alors soit des démons qui sont représentés par des personnages qu'on voit, là, soit des démons intérieurs, ce qui est le cas aussi dans Harry, comme dans beaucoup d'autres œuvres, et un côté psychologique qui est mis en avant. Et les jeunes me disent tous, enfin une bonne partie en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup ce côté psychologique.
Dans la culture jeune que vous avez pu étudier, vous n'avez pas jusqu'à présent parlé des réseaux sociaux ?
Alors, j'ai pas parlé des réseaux sociaux parce que, en fait, je me suis intéressé aux fictions. Donc, je peux pas travailler sur la totalité de la culture jeune. Ça serait quand même un très gros morceau. Bon, les réseaux sociaux sont présents en filigrane parce que c'est un moyen d'échange et c'est un moyen de partage. Moi, je m'intéresse au récit, à la façon dont, précisément, on a encore besoin d'histoire. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a ce phénomène de diffusion presque virale. D'ailleurs, c'est le mot qu'on emploie, c'est viral. On parle de séries cultes et on parle de séries virales. Et c'est bien sûr par ces moyens technologiques que ça peut se diffuser. Ça, c'est un accélérateur de diffusion. Mais finalement, les mécanismes de diffusion restent globalement les mêmes au niveau humain, anthropologie, c'est-à-dire quel que soit le vecteur, les réseaux, Internet, ou que ce soit le bouche à oreille, ça reste toujours une passion partagée. C'est pour ça que je fais le rapprochement avec des sociétés très anciennes, en montrant que, d'une certaine façon, oui, on est encore un peu des primitifs, entre guillemets, et comme dans les sociétés traditionnelles, qu'on appelle à tort primitives, eh bien, on a besoin de se rencontrer, alors c'est pas forcément sous un arbre aujourd'hui, mais de se raconter des histoires, et c'est une transmission qui est très, très importante pour structurer ces jeunes et pour les aider à grandir. C'est-à-dire que ça fait partie d'un processus culturel, les anthropologues appellent ça d'ailleurs des rites de passage, hein. Rites de passage qui ont quasiment disparu dans nos sociétés modernes ou postmodernes, et qu'on retrouve précisément à travers la fiction dans ces récits.
Moi, ce que je retiens, c'est qu'il n'y a plus d'amour. Merci pour le coup de vieux, hein, Julien Cueil. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie au lycée, chargé de cours à l'Université Montpellier 3 et psychanalyste, et que vous êtes invité par l'Université Populaire de Caussade à donner une conférence autour donc de cette culture jeune et de leur quête initiative. Ce sera ce samedi 12 novembre à 16h30 au Récollet. C'est bien sûr gratuit. On peut retrouver toutes les infos sur le site de l'Université Populaire, www.up-caussade.fr. Julien Cueil, on vous retrouve donc ce samedi au Récollé. Un grand merci.
Merci à vous.
Et merci à tous d'avoir été avec nous tout au long de ce MAC qui sera rediffusé à 17h et à 21h, réécoutable à loisir et en podcast sur le site cfmradio.fr. Là, c'est les infos.